Littérature sans frontières.
4 Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Hasard du calendrier littéraire, un père et son fils font actuellement la une des librairies. Le père, c'est Georges Simenon, disparu il y a 30 ans et dont on célèbre la création du commissaire Maigret il y a 90 ans. Et le fils, lui, vient de publier son nouveau roman sous le titre « L'enfant de Garland Road » aux éditions Plon. Bonjour Pierre Simenon.
Bonjour.
Vous voici donc sur les traces de votre célèbre père, un écrivain qui ne se doutait pas que l'un de ses fils allait lui succéder. Et pourtant, en 1960, il racontait à la presse canadienne cette anecdote prémonitoire.
Je parlais à un auditoire uniquement dans les écoles de 17 ans à peu près. Et on me posait la question suivante. Supposez que votre fils, qui a 17 ans, vous dise « Daddy, je voudrais devenir romancier. Quel conseil lui donneriez-vous » Vous avez justement des milliers de jeunes gens de 17 ans à l'écoute, répondez. J'ai répondu, mais comme conseil, lire tous les classiques d'abord, à fond, tous les classiques, les étudier du mieux. Ensuite, lire tout ce qui tombe sur la tête, sous la main, jusque vers 23-24 ans. Ensuite, ne plus lire. Vivre avec une majuscule et écrire, en jetant tout au fur et à mesure jusqu'à ce qu'enfin on ait trouvé sa forme à soi.
Lire, vivre et écrire. Trois conseils que vous semblez avoir suivis au pied de la lettre, Pierre Simenon, car vous avez eu de nombreuses existences et attendu longtemps avant de vous jeter dans le bain de la fiction, mais finalement ça a été plus fort que vous.
Oui, et d'ailleurs c'est très amusant parce que cette interview, j'avais 2 ans quand il l'a donnée, donc je ne la connaissais pas, et je l'ai suivie, mais inconsciemment, vu que ça n'a jamais été un conseil qu'il m'a donné à moi. Mais effectivement, j'ai dévoré beaucoup de classiques. Mais pour moi, les classiques, c'est plutôt Steinbeck, Conrad, Hemingway, Myler. Et puis, j'ai vécu pas mal. J'ai été banquier, j'ai été avocat, j'ai été instructeur de plongée. Puis je me suis mis à écrire. Et je crois que c'est un des métiers où, pour écrire, je crois qu'il faut effectivement avoir vécu, avoir un petit peu accumulé de l'humain avant de se mettre à le recracher sur la page.
Et il faut dire aussi que c'est assez rare dans l'histoire de la littérature qu'un fils écrivain, surtout célèbre, reprenne le flambeau. Est-ce que, de fait, Pierre Simenon, vous avez eu la tentation, une fois que vous saviez en vous-même que vous vouliez écrire, de prendre un pseudonyme ?
Non, on me l'a proposé. En fait, un ami à moi m'a demandé si je voulais pas le faire. J'ai dit non. Pourquoi ? Parce qu'en plus, mon premier livre, c'était à propos d'un homme qui défend la mémoire de son père. J'ai dit donc, si mon héros se bat et risque sa vie pour défendre la mémoire de son père, pourquoi je craindrais la mémoire du mien ? Non, je dois dire que c'est vrai que la seule chose que mon père m'ait jamais dit sur la littérature ou sur le métier d'écrire, c'est très peu d'enfants ont succédé à leurs parents, à part Alexandre Dumas, père et fils. C'était peut-être une mise en garde, mais à l'époque où il me l'a dit, j'avais jamais pensé à écrire. Je crois que le fait que je vis aux États-Unis depuis 32 ans, je suis américain, où il est quand même un petit peu moins super connu qu'en Europe, m'a permis de faire la transition en début presque inconsciemment. J'ai jamais vraiment pensé à mon père quand je me suis mis à écrire, peut-être parce que j'écrivais dans un genre tellement différent. Et puis maintenant que j'ai eu l'occasion d'y penser, bah c'est trop tard, ça y est, je suis imbriqué dans le métier et puis j'y pense plus, donc ça ne me pèse pas, si vous voulez.
Un genre différent, en effet, et on le voit avec ce roman « L'enfant de Garland Road » qui est assez éloigné de l'univers de Georges Simenon, mais sous le portrait que vous faites de cet homme de 63 ans qui est en pleine introspection, au bord du désespoir même, il faut reconnaître que l'intrigue est également policière, nous allons en parler. Donc ça veut dire pour vous, Pierre Simenon, que c'était aussi naturel d'écrire un roman noir, un suspense, même si ce genre avait été arpenté par votre père ?
Je crois qu'on ne choisit pas ce qu'on écrit. Je cite toujours Jacques Chesset, qui était un auteur roman, donc de Romandie, où j'ai grandi en Suisse.
Grand écrivain,
et qui était professeur dans le collège où j'étudiais, à l'époque où j'étudiais, et qui disait « l'écriture, c'est la régurgitation de l'âme, pas de l'homme ». Et je dirais plus, on écrit un peu comme on vomit, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, on écrit ce qu'on a en soi. Donc je me suis pas dit un jour, tiens, je vais écrire ça, dans ce genre, et surtout pas faire un polar comme mon père, ou pas faire de la psychologie comme... Non, j'ai écrit ce qui était en moi, ce que j'avais envie de dire et de lire. Donc il se fait que c'est un peu plus proche du thriller, que je lis beaucoup de je lisais beaucoup de littérature américaine. Maintenant, de plus en plus, je m'intéresse au personnage plus qu'à l'intrigue, quelque part, donc ça devient un peu plus psychologique. Mais c'est pas une décision, c'est ce qui me vient, je dirais, à l'esprit, plutôt sur la page.
Parlons-en de ce roman « L'enfant de Garland Road », qui est un roman à double détente, puisque à la fois c'est l'histoire d'un homme, Kevin, veuf, qui après avoir élevé seul sa fille, se retrouve à un moment de son existence où il est un peu fragile.
En pleine crise.
Voilà, et il envisage même de mettre fin à ses jours parce qu'il a la sensation d'avoir raté son mariage, sa carrière d'écrivain, sa fille est partie... loin de lui, et alors qu'il va peut-être passer à l'acte, survient le terrible meurtre, sauvage et mystérieux, de sa belle-sœur et de son mari, laissant orphelin un petit garçon de 10 ans que Kevin va accepter de recueillir, sauf qu'il ne sait pas encore qu'ils sont loin d'être hors de danger. Quel a été le point de départ de cette histoire, Pierre Simenon? Un fait divers, une intuition?
C'est un roman qui m'a pris par la main. J'ai pas vraiment construit de plan. Je me suis mis à écrire sans aucun plan au départ. D'ailleurs, le plan, j'ai dû le faire après parce que mon éditeur voulait quand même un résumé pour accepter l'histoire. Mais je crois que j'ai été influencé par le Vermont lui-même, qui est un personnage important, par la dureté, mais aussi la beauté du paysage et des gens qui y vivent. Bon, la relation père-fils ou parent-enfant a toujours été très importante pour moi. J'ai eu la chance d'avoir un père merveilleux qui était très attentif, très disponible, qui m'a énormément donné de lui-même. Et puis, je suis un papa, j'ai deux enfants, donc ça a toujours été une ligne conductrice un peu dans ce que j'écris. Mais je crois que j'avais envie de me mettre un peu à la place de quelqu'un qui, fondamentalement, souffrait de ne pas avoir pu prouver à son épouse décédée et à lui-même qu'il valait quelque chose. Donc quelqu'un qui a son idée, son désespoir, c'était de ne plus pouvoir prouver ce qu'il pense qu'il valait. Et le prendre à ce moment-là, et de le jeter un peu dans la tourmente, et de voir ce qu'il en sort.
Et vous venez de le dire, Pierre Simenon, c'est vrai que cette intrigue se déroule essentiellement dans le Vermont, état des États-Unis que vous connaissez bien pour y vivre. Je me demandais comment un homme comme vous, né à Lausanne en Suisse d'un père belge, se retrouve à vivre aux États-Unis depuis plus de 30 ans et dans le Vermont en particulier.
Alors mon père a vécu 10 ans aux États-Unis, oui. Dans beaucoup d'endroits, Californie, Arizona, Floride, Connecticut. J'ai un frère et une sœur qui y sont nés. Mais il est parti entre autres parce que en 55, c'était l'époque du macartisme et ça l'avait vraiment dégoûté. Et c'est par accident que je suis né en Suisse. J'ai grandi en appelant mon père Daddy. D'ailleurs, aucun de mes frères et sœurs ne l'ont jamais appelé papa. Avant que je parle anglais, il nous traduisait des livres américains, il nous les racontait. Donc j'ai vraiment grandi avec beaucoup d'influence américaine. Ma mère est canadienne, j'ai aussi la nationalité canadienne. Donc quand je suis parti faire mes études aux États-Unis, mon père m'a dit « je crois que tu reviendras pas ». Et au bout de 2 mois, j'ai écrit, j'ai dit, comme disent les Québécois, je suis tombé en amour avec ce pays et je suis plus rentré. Je suis resté, je suis devenu américain. Maintenant, c'est vrai que la région que je préfère, c'est là où j'ai vécu 20 ans, c'est la Californie du Sud, que j'espère retrouver un jour. Je suis passionné de plongée sous-marine et je dois dire que aux épaves des lacs du nord-est des États-Unis, je préfère les requins des eaux californiennes, donc ça me manque beaucoup. Mais j'adore les États-Unis sous toutes ses formes et l'Amérique du Nord en général. Je m'y sens chez moi, que ce soit... quand je dis Amérique du Nord, je me sens chez moi aussi bien au Mexique qu'au Québec ou dans l'Ontario ou au Texas.
On l'a dit parallèlement à l'intrigue policière, donc ce roman est traversé par la question du père, à travers l'exemple donc de Kevin, qui a préféré arrêté sa carrière professionnelle pour s'occuper de sa fille, puisqu'avant de mourir, son épouse était une femme d'affaires redoutable, qui n'avait pas un très grand instinct maternel. Et cette question se pose donc à nouveau quand Kevin décide de s'occuper de son neveu orphelin, mais pas seulement pour le garder et le nourrir, mais vraiment pour le protéger, l'aimer, lui lire des histoires, l'élever, même s'ils n'ont aucun lien biologique. C'est ça pour vous la définition d'un bon parent, Pierre Simenon, une personne qui met sa vie entre parenthèses pour se consacrer à son enfant?
Personnellement, d'abord je pense qu'un bon parent, c'est un parent qui est disponible. Ça ne veut pas dire forcément dans le nombre d'heures, mais disponible d'esprit. Et aussi, c'est pour moi ce que mon père a été, c'est que quel que soit son âge, c'est quelqu'un qui peut se remettre dans son enfance, qui est toujours quelque part un enfant et un adolescent. Parce que si vous voulez être parent et communiquer avec vos enfants et vos adolescents, il faut que vous vous souveniez de l'enfant et de l'adolescent que vous étiez. Trop de parents ont une mémoire sélective et se disent oh, « j'ai jamais réagi comme ça » ou « j'ai jamais fait ça à ton âge ». Non, on a tous fait ces bêtises à leur âge, mais il faut s'en souvenir. Il faut être prêt à se mettre mentalement et physiquement à quatre pattes pour jouer avec vos enfants. Moi, j'ai eu la chance, comme mon père, d'avoir maintenant un métier que je pratique à la maison. Donc oui, je suis le parent à domicile, ce qui me donne une joie énorme d'être là, de pouvoir aller les chercher à l'école, de leur préparer leur déjeuner, de faire la cuisine tous les soirs pour la famille. Mais la dernière chose, et d'ailleurs j'en parlais à une personne aujourd'hui, en général, personne ne vous force à être parent. Si vous faites le choix d'avoir des enfants, vous devez accepter que ce choix vient avec des sacrifices. Que pour au moins 18 ans, jusqu'au jour où ils partent à l'université et puis ils décident que ils ont peut-être pas envie de vous voir tous les jours, ils ont une vie à mener, ce qui est d'ailleurs bien, parce que l'oiseau doit quitter le nid, mais pendant au moins 18 ans, vos enfants passent avant tout. Vous venez en second plan. Et je ne crois pas aux personnes qui disent qu'ils peuvent être à la fois parents et garder la vie qu'ils avaient avant. Non, ça je n'y crois pas. Il faut tout sacrifier pour ses enfants.
Alors j'entends bien ce que vous dites, Pierre Simenon, mais j'ai du mal, et je suis sûre que votre père était très présent, mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse mettre entre parenthèses son travail d'écrivain. On sait que c'était une machine à écrire vivante, il écrivait et publiait 4 romans minimum par an. J'ai du mal à penser qu'il puisse mettre de côté son travail d'écriture pour s'occuper de vous.
Alors il le faisait parce qu'il faut vous souvenir que, bon, c'était un écrivain assez spécial, il écrivait un livre en une semaine. Il écrivait entre 4 et 10 livres par an, mais ça lui prenait une semaine, au maximum 10 jours pour l'écrire, et entre 2 et 3 jours pour la révision. Et après, ça partait en imprimante. Donc si vous prenez une moyenne de 5 romans par an, c'est 5 semaines de travail par an, plus environ 10 à 12 jours de révision. Le reste du temps, le matin, il faisait son courrier, il répondait personnellement à tous ses lecteurs, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris par osmose, si vous voulez, parce que vous vivez de vos lecteurs, vous devez tout à vos lecteurs. Donc si vous avez le privilège qu'un lecteur vous écrit, vous lui répondez. Ça, c'est la règle numéro un. Mais 2 heures de travail le matin, et la plupart du temps, quand il n'était pas en roman, il était là. Il était là pour nous. Et même s'il travaillait, même disons qu'il soit à son bureau en train de taper à la machine, un enfant n'a pas toujours besoin d'être avec ses parents, mais de simplement savoir qu'ils sont présents à la maison, c'est un énorme avantage. J'avais des amis d'école ou de lycée, leur papa travaillait dans une banque ou était médecin ou dans une boulangerie. Ils partaient le matin, ils revenaient le soir. Ils étaient beaucoup moins présents que mon père.
Donc à la fois, il était extrêmement prolifique, mais à la fois, comme vous nous le racontez, Pierre Simenon, il était très présent pour sa famille.
Oui, d'ailleurs, il a toujours dit, quand on lui demandait quel est votre métier, il disait père de famille.
Je suis pas du tout un cas, et j'ai horreur d'être un cas. Je ne suis pas un cas, je suis tout simplement un romancier. C'est tout. Le romancier est un artisan avant tout. C'est un monsieur qui écrit parce qu'il a besoin d'écrire et qui ne se demande pas si la phrase doit avoir 3 lignes ou 1 ligne et demie ou 10 lignes, qui, tout simplement, perfectionne son outil au jour le jour.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Pierre Simenon qui publie un nouveau roman sous le titre L'enfant de Garland Road, un polar mais aussi le portrait d'un homme qui pense être un écrivain raté et qui pourtant n'a pas totalement baissé les bras, même si c'est une souffrance, à l'image de ce que lui a dit un jour un romancier célèbre, ouvrez les guillemets, écrire n'est pas une profession mais une vocation de douleur. Fermez les guillemets. Et pour vous, Pierre Simenon, c'est de la douleur aussi ?
Alors d'abord, je vais vous poser une question. Savez-vous qui a dit cette parole ?
Non, je l'ai extraite de votre roman, mais je n'ai pas les sources.
C'est mon père qui l'a dit, lors d'une interview. Et en fait, c'est tiré de l'anglais, il n'utilise pas le terme douleur, il dit « unhappiness », mécontentement. Ce qu'il entend par là, c'est que quand vous écrivez, d'abord, c'est un besoin. On décide pas d'écrire. C'est soit on a le besoin de le faire, soit on l'a pas. Et deuxièmement, on n'est jamais totalement satisfait par ce que l'on fait. Parce que on a l'impression qu'on peut toujours faire mieux. On peut toujours améliorer. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai une amie à l'heure actuelle, une voisine qui est en train d'écrire son premier livre. Et je lui ai dit, maintenant, il faut que tu arrêtes. Envoie-le. Fais-le publier, sinon tu vas passer ta vie à toujours l'améliorer. Et donc il y a ce sentiment de mécontentement, parce qu'on n'est jamais complètement content de soi. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs, moi je me considère pas un auteur, je suis un apprenti, je suis un artisan. Je serai toujours un apprenti, mais vous demandez même à des gens comme Hemingway ou d'autres, aucune comparaison possible d'ailleurs, ils disaient toujours « ma grande œuvre, c'est la prochaine ». Et si vraiment vous faites votre travail, votre grande œuvre, ce sera toujours la prochaine parce que vous serez jamais content avec vous-même. Donc c'est ça.
Alors la souffrance, elle n'existe peut-être pas dans le fait d'écrire, c'est ce que vous nous racontez, Pierre Simenon, mais elle peut exister dans les thèmes abordés parce que ici, par exemple, votre roman met en scène un tueur pédophile en série sur les traces de jeunes victimes, de jeunes proies dont le petit David, qui d'ailleurs est kidnappé par ce prédateur. Et là, vous écrivez deux scènes très délicates entre l'adulte pervers et l'enfant. Est-ce que vous vous étiez donné une limite comme écrivain ?
Oh oui, pas comme écrivain, mais comme père. Je ne me suis même pas donné, j'ai dû me forcer à écrire ces scènes. D'ailleurs, je les ai écrites en pleurant, je les ai écrites glacées de terreur, et je les ai écrites, j'en ai perdu le sommeil pendant plusieurs jours. Ces scènes, j'ai dû les écrire. D'abord, j'ai un très bon ami au Vermont qui est agent spécial du FBI, qui m'a pas mal conseillé. J'ai été sur les sites de kidnapping d'enfants du FBI et d'autres. J'ai dû rechercher tout ça. Et je me suis... Une limite naturelle que je me suis imposée, je pouvais pas franchir un certain niveau parce que comme père, c'était au-delà de mes forces. Par contre, si vous acceptez d'écrire sur un sujet, vous pouvez pas non plus le passer à l'eau de rose. Donc j'ai essayé, je sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé de marcher sur ce chemin sans voyeurisme, sans effet facile, mais sans eau de rose. Il fallait le parler tel que c'était. Mais il fallait que ça n'aille pas plus loin qu'un certain niveau, et donc c'est pour ça que l'intrigue se déroule sur une certaine période de temps, parce que en tant que père, ça aurait été au-delà de mes forces.
Alors, ce roman est très documenté. Vous venez de nous le dire, Pierre Simenon, vous connaissez des agents du FBI. Et en effet, ici, vous citez toutes les ressources de la police américaine. Vous êtes également très précis dans la description des armes. Et votre personnage est même capable de démonter un pistolet, un Colt, en moins de 20 secondes. Et vous ?
Oui, mais ça, c'est très facile. Oui, je peux le faire aussi.
Donc, ça veut dire que vous aussi, vous possédez une arme ?
Je possède effectivement deux armes à feu, oui.
Qu'est-ce que ça vous évoque, cette différence entre l'Europe et les États-Unis sur le port d'armes, justement, qui est légal d'un côté et illégal de l'autre côté de l'Atlantique ?
Alors, d'abord, j'ai grandi en Suisse où le port d'armes est beaucoup plus naturel, ou en tout cas l'était pendant très longtemps. D'ailleurs, tout citoyen suisse a son fusil d'assaut chez lui. Donc c'est beaucoup plus naturel dans ce milieu-là. Aux États-Unis, je trouve que nous devrions abolir l'amendement de la Constitution qui permet le port d'armes tel qu'il existe à l'heure actuelle, parce que c'est devenu une monstruosité. Il y a 300 millions d'Américains et il y a 320 millions d'armes à feu aux États-Unis. Mais par contre, ces armes à feu ne sont possédées que par 20% de la population. Ça veut dire que il y a à peu près 60 millions d'Américains qui possèdent 320 millions d'armes à feu. Il y a des armes à feu que même Ronald Reagan, qui était un républicain bonne souche, je suis démocrate, disait que seule l'armée ou la police en a besoin, c'est les fusils d'assaut. C'est une stupidité d'avoir des fusils d'assaut chez soi. Et quand on voit l'emploi qui en est fait, surtout dans les écoles, par exemple, quand vous avez ces meurtres en série dans les écoles, c'est terrifiant. Maintenant, moi, ça fait longtemps que j'ai un pistolet, un revolver chez moi. Je l'utilise uniquement dans des stands de tir. Et ils sont dans des petits coffres forts et on doit utiliser mes empreintes digitales pour y accéder. Donc mes enfants, même s'ils voulaient essayer, ne pourraient pas les atteindre. Ceci dit, le jour où ça devient illégal, je serai le premier à me rendre à la police et à les donner. C'est devenu une affaire politique. C'est contrôlé par des gros lobbies d'armes à feu. Et je trouve que ce que a fait la Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a 2 semaines, de bannir les fusils d'assaut, on devrait faire la même chose. Mais c'est impossible à l'heure actuelle, d'abord avec le président qu'on a et avec le Sénat qu'on a, malheureusement.
On est bien loin du commissaire Maigret avec ce que vous nous racontez, parce que de mémoire, lui ne se sert jamais de...
Il s'en est servi.
De son arme.
Oh oui.
Ah, il s'en est servi.
Il s'en sert dans Piette le Letton, le premier Maigret. Il s'en sert entre autres, et d'ailleurs il se fait tirer dessus et blessé dans... je viens de le lire et maintenant le titre m'échappe. Mais oui, il se sert de son arme, mais pas souvent. Mais souvenez-vous que la police, même pour la France, la police judiciaire des années 30 et 40 et 50 n'est pas la police judiciaire française à l'heure actuelle. Il y a 10 ans, je serais rentré dans vos locaux sans avoir une personne avec une veste blindée pour checker que je ne possède pas d'armes. Les choses ont changé, même en Europe.
Puisque, effectivement, l'époque a beaucoup changé, est-ce que vous craignez que ce commissaire Maigret que nous aimons tous pourrait se démoder pour les générations futures ?
Je ne crois pas. Parce que ça n'est pas la méthode policière qui importe dans Maigret, d'ailleurs. Maigret, même pour l'époque, n'appliquait pas la méthode policière de l'époque. Maigret, c'est un introspectif qui, comme mon père d'ailleurs, absorbait de l'humain comme une éponge, c'est comme ça qu'il définissait son travail, il absorbait de l'humain, il recrachait sur la page. Maigret s'immerge dans l'humain et en déduit quelque part, ou même pas déduit, par empathie, réussit à se mettre à la place des coupables et des innocents et à finalement découvrir le fil de l'intrigue. Et ça, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de géographie.
Ils sont beaux, les derniers Saint-Fiacre. Ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui s'envoie des gigolos.
Votre maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert.
Pas souffert?
Un accident en avant?
Non. Pas l'accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher.
Qu'est-ce que vous racontez là? Vous êtes fou?
Et vous, hein, vous deviez agiter le grelot, flétrir la débauche, monnayer les absolutions contre les mea culpa, les hosties contre les secrétaires. Eh bien, répondez-moi, dites-moi que ça n'est pas vrai. Mais déconnons!
Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas?
Dieu le connaît.
Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira.
Je crois que le succès des romans de mon père, que ce soit les Maigret ou les non-Maigret, c'est qu'il traite de l'homme nu. L'homme nu ne changera jamais. C'était le même il y a 40 millions d'années, plutôt 4 millions d'années, on n'existait pas il y a 40 millions d'années. Et ça sera probablement le même, j'espère, dans 4000 ans.
Comment c'est de vivre aux États-Unis quand on est européen de langue française, même si j'ai cru comprendre, vous aviez désormais la nationalité américaine?
Oui, j'ai une triple nationalité, je suis américain, canadien et suisse. Mes enfants en ont 4.
Vous êtes vu comme un étranger ou pas? Vous avez fait votre place après 30 ans?
Non, les États-Unis sont un merveilleux pays d'immigration. On a couramment j'ai du mal à l'appeler un président, mais bon. On a un président, entre guillemets, qui pense qu'on a un problème d'immigration et il a complètement tort. Les États-Unis se sont bâtis sur l'immigration. Tous les Américains sont des immigrants. Quelque part, même les Native Americans, les Indiens, comme on les appelle ici, sont venus par le détroit de Bering il y a 40 000 ans. Donc, même si chaque vague d'immigration crée parfois des problèmes, il y a eu des heurts quand les Irlandais sont arrivés au 19e siècle, les Italo-Américains au début du 20e, Mais en deux générations, les immigrants s'assimilent. Donc, nous sommes tous quelque part des étrangers aux États-Unis. Donc, vous êtes toujours le bienvenu. C'est très facile d'immigrer aux États-Unis parce que même un président que j'ai pas soutenu, qui m'a écrit une lettre quand je suis devenu américain, parce que quand vous devenez américain, vous recevez une lettre du président des États-Unis.
Et c'était
George Bush numéro 2, que je n'ai pas vraiment soutenu. Il avait écrit « Oubliez pas vos origines, ne les niez pas, apporte-les-nous et enrichissez le tissu social que représente notre pays. » Et ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est les États-Unis que j'aime. Et c'est la même chose au Canada. C'est l'Amérique du Nord. Ça s'est bâti sur, je dirais, une immigration constructive.
Et après 30 ans d'immersion dans la langue anglaise, américaine, la tentation d'écrire directement en anglais, Pierre Simenon, vous a-t-elle effleuré?
Ah ben, mon premier livre, je l'ai écrit en anglais.
Et qui a été traduit donc après?
En français, oui, parce que malheureusement, c'est très dur d'être publié aux États-Unis et que j'ai pas trouvé d'éditeur américain. Et entre-temps, j'ai fait la connaissance d'un éditeur merveilleux, qui est d'ailleurs toujours mon éditeur, qui était à l'époque chez Flammarion et qui maintenant dirige le service chez Plon, et qui a été très gentil de m'emmener avec lui dans sa nouvelle maison. Donc j'écris en français simplement parce que c'est beaucoup plus simple que de le faire traduire de l'anglais.
Et comment allez-vous réagir, Pierre Simenon, quand l'un de vos enfants va vous dire qu'il veut devenir écrivain?
C'est amusant que vous posiez la question, parce que dans les écoles américaines, mon fils a bientôt 13 ans, et il est donc en middle school, qui est l'équivalent, je crois, du collège chez vous. C'est juste avant le lycée. Et ils ont des projets de plusieurs mois, en plus des travaux normaux. Et l'année dernière, il avait un projet d'intérêt personnel. Donc ça pouvait être n'importe quoi. De l'artisanat, de la cuisine, ce que vous vouliez, mais il fallait injecter de soi-même. Il a décidé d'écrire une histoire. Et il écrit une histoire d'un jeune Californien, bilingue, qui s'engage dans l'armée américaine à la veille de l'intervention américaine pendant la Première Guerre mondiale. Et donc qui se bat sur le front allemand et qui subit ce qu'on appelait à l'époque le shell shock, le traumatisme du soldat. Et donc c'est une histoire courte, 15 pages, qui, comment dire en anglais, ça m'a fait tomber les chaussettes tellement c'était extraordinaire, quoi. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, à 12 ans, j'aurais jamais été capable d'écrire ça. Il avait recherché son sujet. Il traite des combats d'une manière... D'ailleurs, ça commence rain, mud, boredom and bad food. Ce qui est vrai, c'était la pluie, l'ennui, la boue et la nourriture dégueulasse. C'était ça que les soldats vivaient. J'ai trouvé ça remarquable et d'ailleurs je lui ai dit « mais tu vas continuer à écrire ?» Et il a dit « je suis pas sûr, c'était vraiment fatigant ». Ça a été sa réponse.
Mais néanmoins, la littérature de père en fils et en petit-fils.
Ah bah lui, il lit environ 400 à 450 livres par an. Alors quand vous entendez le grand-père qui dit « lisez, lisez, lisez », il a lu, il a même lu Sun Tzu, qui est un stratège chinois du 4e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, il prend tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, il les dévore. Alors, je lui dis pas non.
Donc, il lit, il écrit, il va falloir qu'il vive un petit peu aussi.
Oui, là, il se débrouille pas mal, donc ça va. Mais il va bientôt être adolescent, donc je suis sûr qu'il va se mettre à vivre passablement.
Merci beaucoup, Pierre Simenon. Donc, en attendant de recevoir ici votre fils pour un roman, je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Enfant de Garland Road, qui vient de paraître aux éditions Plon.
Merci pour votre invitation.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.